Les nuits de France Culture.
Plutôt que journaliste, faut-il être écrivain pour décrire et mettre les mots sur l'énergie et la vitalité de la musique, et de la musique rock en particulier? Patrick Edeline semble répondre à cette question par l'affirmative au micro d'Hélène Azéra dans ce numéro de Chanson Boom. Le rock critique qu'on ne présente plus n'est pas invité ici au titre de ses faits d'armes journalistiques, mais à l'occasion de la parution d'un roman, Rue des Martyrs, paru chez Grasset en 2009. Un ouvrage qui lui permet d'aborder avec une certaine liberté plusieurs épisodes marquants de l'histoire de la chanson en France, du drugstore au palace et jusqu'aux années 2000. Quand l'épopée du rock et des musiques underground s'incarne sous les traits d'une galerie de personnages, les frontières entre le roman et la critique musicale s'estompent, à la manière du journalisme inventé outre-Atlantique et au Royaume-Uni par les grandes plumes de la rock critique depuis les années 60. Voici donc Patrick Edeline au micro d'Hélène Azéra dans Chanson Boom, une émission du 26 juillet 2009.
As-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant?
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter.
De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Chanson Boom, la chanson en question, entretien avec les acteurs de la chanson contemporaine par Hélène Azéra.
Il y a des trucs un peu cabaret sublime d'elle et tout, il y a des chansons que j'adore et tout.
Ça commence bien. Patrick Edeline, quand Bonjour. Le micro s'allume, on se tait.
Mais oui, suis-je bête.
Alors, je reçois l'arbitre des élégances du rock, en France du moins. Il a peut-être des collègues au Liechtenstein, ouais. À New York.
Comme disait Jean-Yann, justement, j'aime pas le rock. Non, mais c'est vrai, on parle toujours de rock, de machin, mais en fait, j'aime le blues, la pop, la chanson, tout ce qu'on veut, mais j'écoute jamais de rock. Ça me fait penser à Metallica, tout ça, ça me fait penser à des hommes au pantacourt, comme ça, vraiment, c'est pas du tout mon truc, quoi. Donc le rock, c'est moi, U2 et tout ça, c'est pas. Bon.
Alors en fait c'est un romancier que je reçois pour un roman qui s'appelle Rue des Martyrs, qui est autour des milieux de la chanson, en tout cas des milieux qui aiment la chanson, qui ne vivent que pour la chanson, et qui se situe des années 60 à aujourd'hui. Quoi.
C'est, absolument, ça commence au drugstore, ça finit au baron. Quoi.
Voilà, alors quoi. C'est un peu l'idée de la faune du drugstore des années 60, qui est une espèce de chose complètement mythique. Simplement des jeunes qui se réunissaient là, comme d'autres se sont réunis plus tard dans le hall ou se réunissent sur les marches de la Bastille aujourd'hui. Et puis un qui ne jure que par la chanson anglophone se retrouve à faire un 45 tours en français. Et c'est toute l'histoire. C'est l'histoire des paumés de la musique, hein, un peu.
Et puis c'est l'histoire de la chanson française dans les années 60 aussi, quoi. Je veux dire de tous ces parcours, puisque c'est quand même beaucoup de gens sont mélangés à travers ce héros-là, quoi. Ça.
Mon analyse, c'est que l'anglomanie est devenue un phénomène de masse dans les années 60. On l'avait connu avant. Hein,
dans... Debussy était anglomane, par exemple. Il adorait ça, mais bon.
Et Baudelaire, qui dédiait au Happy Few un disque. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette anglomanie, mais qui était absolument incroyable?
Ah, c'était les dieux.
Dans une certaine jeunesse.
Oui. Mais je crois que bon, c'était évidemment à cause des Beatles et des Stones, de ce miracle qui est arrivé en Angleterre, où ils ont redécouvert le blues et tout ça que les Américains avaient laissé tomber. Quoi. Je veux dire, bon, une bande d'étudiants qui achetaient des disques de blues comme ça, c'est devenu les Beatles et Rolling Stones et tout ça. Et c'est vrai, moi, j'ai, à mes 12, mes 13 ans et tout, j'étais fasciné par les Anglais. C'est la chanson de Ronnie Ronnie Bird, le style anglais, oui, moi je l'ai, enfin je veux dire, voilà. Et encore maintenant, j'ai un truc comme ça, c'est-à-dire quand je peux pas aller à Londres ou tout ça, et ça me fait forcément quelque chose. Ça a été trop fort pour toute une génération, et tout ça, à part ça, effectivement, on en pense ce qu'on veut. Surtout qu'on sortait quand même d'une France qui avait été obsédée par l'Amérique, celle de Yves Montand et voilà. Tout ça, c'était voilà. Vraiment l'Amérique.
C'est le dieu cargo, voilà. L'Amérique dans certaines populations polynésiennes où on a divinisé le cargo qui chaque année amène...
Chez nous, c'était presque ça aussi, enfin en France et tout. La France qui joue aux cow-boys et aux indiens dans les squares, comme moi j'ai pu jouer, je veux dire, rien. On comprenait même pas, je veux dire, que Rintintin à la télévision, c'est un Américain. Je veux dire, on était tellement baignés dans cette culture américaine quand on était gamin et tout ça. On avait quand même des chanteurs qui s'appelaient Johnny Hallyday et des Creamers, je rappelle, et tout ça. Et donc, l'anglomanie, quand même, c'était différent, quoi. C'était vraiment quelque chose qu'on avait choisi, c'était un goût, c'était une culture, tout un truc, quoi.
Cette musique anglaise est une décalque d'une musique américaine spécifique, et ensuite les Français vont la décalquer à leur tour.
Ouais. Mais on est toujours beaucoup de mal d'adaptation. Mais quand on écoute, par exemple, ce que les Français ou les Italiens, moi j'adore la musique italienne de manière générale, de cette époque-là en particulier, et tout ça, je veux dire, ils prenaient les standards, les morceaux célèbres de cette époque, ou les classiques du rock et tout ça, ils en faisaient un truc qui pouvait être que français, que dans ce pays. Bon, des fois, c'était un petit peu pathétique, pas trop bien, comme les surfs ou des choses comme ça. Mais même les surfs, ça avait du charme.
Beaucoup de charme.
Et puis, des fois, ça fait vraiment... c'est magnifique, moi j'adore ça. Et même si c'est pas la même production que l'original, qu'Office Spector et tout ça. Et je dis toujours, en France, on a peut-être pas Chuck Berry, mais enfin bon, on a Baudelaire, on a tout ça, ce qui est pas mal non plus. Donc, notre talent passe par les mots et tout ça. Et il y a une force souvent dans ces adaptations. Mais pour moi, c'est pas adaptation. J'aime pas ce concept-là. Alors, parce que c'est réducteur. Pour moi, c'est du répertoire. Je veux dire, même quand Johnny Hallyday fait Hush en français et que ça donne mal, c'est fantastique et c'est aussi bien que Hush. C'est autre chose. Voilà, mais c'est bien.
Alors, on s'est téléphoné en disant, bon, quel disque on va mettre. On voulait mettre justement quelques-uns de ces chanteurs 60, plus ou moins oubliés, quand même, beaucoup réédités en CD. Un des noms que tu m'as donné, c'est Gillian Hills, qui est une anglo-polonaise vivant en France, donc qui a quand même une petite caution britannique.
Ah, elle a joué dans Blow Up, quand même. Elle a joué dans le fameux film Blow Up avec Jane Birkin et tout ça. Donc,
elle arbore des choucroutes, donc les cheveux crépés blond comme il se devait à l'époque. Et là, c'est intéressant parce que c'est justement pas les covers, les adaptations, c'est Aznavour qui lui écrit une chanson particulièrement pour elle. Donc c'est la grande trahison de Aznavour, tout en restant dans la chanson traditionnelle. Il n'en écrit pas néanmoins pour ces petits jeunes qui sont en train de secouer le
Mais pauvretier. La veste était doublée de vison, c'est pour ça.
Ça, c'est, bah oui, c'est Gainsbourg qui l'a dit un peu plus tard.
Je sais bien, c'est la même.
Gillian Hills chante Aznavour pour Jean-Loup.
Lorsque Jean-Loup s'amuse à me parler tout bas, je suis comme confuse et rougit malgré moi. Il m'a dit, tu es bête, car il ne comprend pas ce qu'il y a dans ma tête, que mes pensées s'arrêtent. Lorsque Jean-Loup me frôle, j'ai le cœur en émoi, et ça me fait tout drôle. Je ne sais pas pourquoi, je ne vois plus personne, y'a que lui, y'a que moi. Tout en lui m'impressionne, et souvent je frissonne. Lorsque Jean-Loup m'ignore, je ne sais où aller. Le chagrin me dévore, j'ai envie de pleurer. Mes idées se mélangent et je ris sans arrêt. Et pour donner le change, je dis des choses étranges. Lorsque Jean-Loup me quitte, je souffre dans mon coin. Ma vie part à sa suite, l'accompagne de loin.
Mes parents, ça me choque. Ils ne comprennent rien. Ils ne sont plus d'époque. Et bêtement se moquent. Parce que j'aime un homme qui a déjà 16 ans. Vous devriez voir comme il me traite en enfant. Ma déception est vive, car ils ne savent pas que lorsque jaloux arrive, l'amour entre pour moi.
Patrick Oedlin, qu'est-elle devenue cette charmante Gillian Hills?
J'aimerais bien savoir, parce que tous les personnages qui sont cités dans le roman, que je croyais que j'allais citer, en fait, j'ai essayé de les joindre pour leur demander l'autorisation, puis pour le clin d'œil aussi, parce que j'avais envie de leur parler aussi, de voir, d'en profiter pour voir ce qu'elles étaient devenues. Gillian Hills, impossible de savoir. J'ai cherché. La dernière fois qu'on a eu des nouvelles d'elle, c'est 1970. Donc, ce qui quand même remonte. Là hein, là. Voilà.
Elle vivait en France.
Elle était partie à Londres, puisqu'elle a tourné dans ce film magnifique, Blow Up, là, je veux dire, bon, un classique absolu, là, et tout ça. Bon, avec des scènes avec Jane Birkin, où on la voit faire la Top Girl. Et tout ça, on dirait Lead Girl maintenant d'ailleurs. Et donc, elle a fait des films, elle a fait des choses comme ça jusqu'à, oui, 70, je dirais. Et depuis, à mon avis, elle s'est mariée avec un prince, comme beaucoup, genre comme Cécile Aubry ou je sais pas qui, enfin, genre un peu ce genre-là, quoi. Ça se faisait beaucoup quand même. Ou elle est dans un kibbutz, comme Esther Galil ou d'autres, peut-être,
donc,
je sais pas.
On va écouter plus tard. En fait, on s'aperçoit, l'histoire de la chanson, c'est l'histoire de tous ceux qu'on a oubliés.
Bien sûr qu'il y a plus de tendresse, c'est souvent dans ce genre de marche que se font les choses importantes, bien sûr. Même si quand même, moi je suis toujours le premier à dire bien fou du Johnny Hallyday des années 60 ou des grands, je veux dire, je ne vais pas dire du mal de Brel, sous prétexte que c'est le plus grand chanteur. Quoi. Enfin, je veux dire, il faut se méfier de ça aussi, il faut se méfier de l'underground et de la... Voilà, quoi, de la passion pour les petits, les oubliés, les obscurs.
Tu balances pas mal sur cette bande du drugstore. Parce que toi, ce que tu dis, c'est que c'est quand même des fils de riches. Et ce que tu décris, qui est très cruel, c'est les fils de pauvres qui réussissent à se glisser chez les fils de riches et pour qui c'est comme une ascension sociale d'être intégré dans cette bande qui joue les nihilistes, mais qui en fait est assez conformiste.
16e, voilà, et puis ça vient du 16e. En fait, moi, je suis obsédé par cette histoire pour une raison très, très simple et tout. Je suis juste trop jeune pour l'avoir connue, en avoir fait partie. C'est-à-dire, j'ai connu la queue de comète de ça. C'est-à-dire, quand j'allais avec mes petits camarades que j'avais 13 ans sur les champs, c'était fini le drugstore. Je le savais, on en parlait dans les chansons, je veux dire, dans les chansons de Gainsbourg, dans les chansons de qui on voudra et tout ça, bon, mais ça n'existait plus vraiment en tant que tel, c'était déjà une légende. Et donc, j'ai voulu vraiment savoir ce qu'il en était. C'est une histoire bon, qui m'obsède un peu, parce que je veux dire, il y a tout ce côté dandisme à la française, avec moi et tout ça, qui vient de là. Et puis en fait, qu'est-ce que c'était? Qui a fait qui dedans? Pour un Gérard Manset, bon, qui est devenu ce qu'on sait et tout, je veux dire, bon, il y a Paul Lelouch-Ulysser, bon, qui a fait fortune à 16 ans dans les porte-clés et tout ça, quoi. Mais je voulais, il y a Ronnie Bird quand faisait partie et tout aussi. Donc je voulais Bachoum qui a un peu traîné dedans et tout. Donc je voulais vraiment savoir ce qu'il en était et tout. Et en fait, je veux dire, dans les années 60, on faisait semblant que les classes sociales, c'était pas si important que ça, mais en fait, qu'on était tous copains si on avait les cheveux longs et que voilà, et qu'on écoutait Bob Dylan tous ensemble. Et en fait, c'est des conneries. L'argent, ça a toujours été très important. Je veux dire, même quand on faisait semblant que non, quoi. Et donc là, j'avais vraiment envie de parler de classe sociale et tout ça dans ce roman. En plus, bon, il y a aussi un peu une expérience personnelle, dans le sens que moi, j'étais élevé dans un collège, parce que mes parents m'ont mis au collège Stanislas, mon père trouvait que c'était très bien. Mais en fait, je fréquentais des gens d'un milieu social supérieur au mien. Donc, c'est quelque chose que je connais en plus personnellement. Je veux dire, les copains qui vont chez vous, qui viennent chez vous, et vous avez un peu honte du lino par terre, quoi. Je veux dire, c'est... Donc j'avais envie de parler de tout ça, quoi. Parce qu'on n'en parle jamais, ça, des classes sociales. On parle jamais d'argent en France, c'est toujours un peu tabou quand même.
C'est possible. Alors, votre personnage, s'il avait réussi, il serait devenu une sorte de Ronnie Bird.
Ouais, ouais,
c'est un Ronnie Bird raté, quoi.
C'est un peu un Ronnie Bird raté, c'est un peu un Bachung raté, puisque je veux dire, oui. Dans les années 80, il se dit, par exemple, oui, alors tous ceux de ma génération... Bon, ils sont là mal en point, c'est foutu, c'est fini, on a fait la lessive. Quelque part, ça le rassure, donc il n'est pas le seul. Et il y a Bachoum qui passe à la radio et il se dit « Ah merde, bah lui, non, lui, il s'en est bien sorti là quand même. Hein, » bon. Et donc, voilà, c'est un mélange de Bachoum, c'est un mélange d'Alain Caen, c'est un mélange de plein de gens. C'est une sorte de chanteur archétypales de l'époque, mais des meilleurs, c'est-à-dire ceux qui avaient vraiment une flamme et une passion en eux et qui aimaient ça pour de vrai, quoi, je veux dire.
On va écouter un titre de Ronnie Bird, mais j'aimerais que tu m'expliques pourquoi, finalement, quelqu'un comme toi, d'une certaine manière, tu le préfères à ceux qui ont fait une grande carrière, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il a fait une grande carrière.
Parce que Ronnie, je veux dire, c'était le plus élégant de tous, dans tous les sens du terme. Je ne parle pas que de fringues là, et oui. Tout ça, et de look et tout ça, quoi, je veux dire. Et il avait c'était un puriste. Voilà, je crois qu'il s'est offert le luxe d'être un puriste, et c'est ça en fait qu'il l'a cramé, quoi. Je veux dire, et que dès 67, 68 et tout ça, c'est lui qui suivait les mouvements, mais tout le monde suivait les mouvements, les Beatles et les Rolling Stones aussi, c'est-à-dire on faisait du rhythm and blues, après on devenait psychédélique en découvrant le LSD, l'acide, enfin je veux dire, bon, on connaît l'histoire des années 60, et Ronnie, dans tous les genres, voilà, il a fait toujours des disques superbes, mais il était trop puriste, et je crois que c'est ça qui l'a cramé. Et genre, donc, il est parti au Canada, il a joué dans R, tout ça, bon, il est parti au Canada en 68-69, où il a fait un disque en anglais très beau, un 45 tours, qui s'appelle Sad Soul, qui est vraiment, franchement, une sublime mélodie et tout ça. Et donc, oui, Ronnie, c'est comme certains bluesmen qu'on aime, parce que c'est à vous, il n'y a que vous qui aimez ça et tout ça. Donc, Ronnie Bird ou Eric Saint Laurent, c'est un peu mes chouchous, comme on disait, ouais, quelque chose comme ça. Parce que c'était des puristes, oui, voilà, c'est ça.
On va essayer de le faire partager quand même. Je voudrais dire, I'll go crazy, Brown Wright.
James Brown, I'll go crazy, James Brown, absolument.
Ronnie Bird.
Je voudrais dire à tous ceux qui sont mes amis, je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas compris, non, je ne peux pas l'oublier. Malgré moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, oui, qu'elle est partie. Je voudrais dire à tous ceux qui l'avaient connue, je voudrais dire à tous ceux qui m'avaient connue, non, jamais je ne l'ai revue. Pensez, oui, qu'elle ne m'aime plus. Non, je ne suis pas le dernier, car personne ne pourra rien y changer. Elle sait bien, si bien, oui, se faire aimer. À tous ceux qu'elle avait aimé, je voudrais dire à tous ceux qu'elle avait laissé, non, je ne suis pas le dernier, car personne ne pourra rien changer. Si bien, oui, c'est aimé. Je voudrais dire à tous ceux qui sont amoureux, je voudrais dire à tous ceux qui en sont heureux, non, mieux vaut ne plus en parler, car personne ne pourra rien changer. On est bien, si bien, oui, quand on est deux.
Ronnie Bird. Alors j'aimerais qu'on fasse une incursion rapide. Toujours là, on parlait de ces problèmes d'adaptation. Alors ce que je te propose, c'est l'adaptation de Painted Black, bon, un des grands succès des Rolling Stones,
certes,
par Marie Laforêt. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré cette adaptation.
C'est une splendeur.
Elle n'a rien à voir avec l'original. Je crois qu'elle-même a du mal à l'écouter.
Ah ouais, elle veut plus en entendre parler. De ça, ça c'est clair. Oui. Elle a traduit Dylan aussi, I Want You, tout ça et tout. Mais elle ne veut plus en entendre parler.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses de
ça? Je l'adore, elle est sublime parce qu'elle n'a rien à voir.
À l'époque, tu l'aimais bien ou...
même à l'époque, très franchement, alors que j'étais un adolescent rebelle, exclusif et puriste, tout ça.
Et que pour dire, toi, c'était une sale chanteuse de variété, même si
voilà,
elle était très belle.
Il y avait un peu ce côté-là.
Même si elle était très belle.
Mais je l'aimais
quand
bien quand même, parce qu'elle était très belle, parce que voilà, les yeux violets, mon père, bref. Mais cette chanson a un charme parce que ça n'a rien à voir avec le rock sombre original. Elle en a fait autre chose, qui parle d'autre chose, les paroles n'ont rien à voir.
Alors, et donc tu ça, sais qui a ça... fait l'adaptation un M. Jourdan.
Michel Jourdan, c'est un mot que j'ai lu sur des pochettes de disques un paquet de fois, mais j'en sais pas plus sur lui, j'en suis navré.
Marie Laforêt, Marie Douceur, Marie Colère.
Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne.
Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà dit 100 000 fois sur tous les temps.
Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse.
Marie colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux.
Marie douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles. Trop un bon conseil, prends garde.
Marie colère adore les éclats de voix. Alors choisis entre les autres filles et moi.
Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne.
Souvenir déjà.
Alors,
je restais sous le charme. Ce qui est drôle, c'est que derrière l'arrangement, c'est le même en fait.
Oui, ils ont repris stones, quoi, tu complètement vois,
voilà, même le sitar,
oui.
Tout ça et tout quoi. Mais c'est pas la même chanson. C'est tellement avec la voix de Marie Lafaure à l'époque, c'est tellement autre chose. Mais c'est comme les trucs italiens. Donc, comme un de mes grands sujets de discussion quand je veux embêter les gens, je leur parle de ça parce que ça me fascine et tout.
La variété italienne.
Ouais, j'adore ça complètement. Et par exemple, il y a des chansons, des classiques du rock anglais qui ont été faits en italien et en français. Et je vais dire une chanson comme Hush qui a été vraiment un succès et tout ça. Bon, et aussi la version française, c'est celle de Génial Idée. Je veux dire, il y en a deux versions italiennes et tout. Et à chaque fois, ça devient autre chose. Les Italiens, ils apportent leur truc d'Italie avec leurs orgues, je veux dire, qui ont un son particulier avec tout ça et tout. Pour moi, c'est du répertoire, c'est pas adaptation, c'est péjoratif l'adaptation. Je veux dire, quand les Rolling Stones, ils reprenaient un morceau de Chuck Berry, on disait pas, ils font une adaptation, ou quand ils reprenaient, je veux dire, ou quand Otis Redding reprenait les Beatles, on dit pas, il fait une adaptation, on disait, il joue un morceau des Beatles, quand, c'est du répertoire.
Ou quand voilà, Stevie Wonder reprend un titre de Charles Trenet.
Par exemple, exactement, bien sûr, répertoire. Moi, je vois cette notion-là, quoi.
Je partage avec toi cet intérêt pour la variété italienne qui est si mal connue en France et c'est vraiment scandaleux.
Mais c'est une histoire magnifique, en plus les histoires sont magnifiques.
Ton roman, ce que je trouve de très joli, c'est que tu montres bien qu'il y a des fois en 2 ans, tout change. On arrive dans un endroit, tout le monde a le pantalon pattes d'éléphant, parce qu'il faut se rappeler que la bande du drugstore, c'est les premiers pattes d'éléphant avant ceux
absolument. Des on appelait ça les marinettes.
Marinettes pattes d'éléphant, voilà la phrase. Eh oui, on a vécu ça. Donc, et puis que 2 ans après, tout le monde est en pantalon serré. En fait, ça va très, très, très vite.
C'est ça qui est fascinant. Bah oui,
ça vraiment, vraiment à la trace.
Manière, ouais, d'une manière obsessionnelle. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'était de faire un roman. Non, mais j'ai beaucoup, parce que je me fiais pas complètement à la mémoire et tout ça. Et même si c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la vie, on va dire quand même, mais j'ai relu beaucoup de choses, j'ai revu beaucoup de films. Je veux dire, je voulais vraiment être d'une exactitude, parce qu'il n'y a rien qui me rend plus fou, il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, quand je vois un film qui est censé se passer dans les années 60, 70, qui est la moindre erreur, mais je veux dire même de Zippo, de la marque du Zippo qui n'est pas, ça me rend fou. Je veux dire, genre quand il y a la marque Ray-Ban là, qui n'est pas de la bonne année, ça me rend fou, il n'y a pas d'autre mot. Quoi. Et je veux dire, quand on fait un film sur Napoléon, les gens font attention à que ce soit exact quand même. Mais alors que bon, quand c'est les années 60, 70, bon, bref. Et donc là, je voulais vraiment que ce soit exact. C'est-à-dire, l'idée, c'était de faire un roman avec quatre personnages qui soient des personnages de roman. Je veux dire, voilà, même si c'est inspiré par plein de gens, plongé dans un monde complètement réel. C'est-à-dire que les gens qu'ils rencontrent dans le showbiz, c'est des gens qui ont existé, tous. Leroux, il a existé, Fechner a existé. Quand il va jouer à Guy Lux et qu'il rencontre tel groupe anglais, c'est que tel groupe anglais a joué ce jour-là dans l'émission de Guy Lux dont je parle. Et simplement, je place mon héros. À l'intérieur de ça, mais c'est vraiment dans un monde réel. Après, je veux dire, quand il va au palace avec Guillaume de Modern, bon, Guillaume de Modernga a existé, bien sûr. Je veux dire, voilà, je veux dire, bon, donc c'était vraiment l'idée de base, quoi. Et ça nécessitait une exactitude, bien sûr, dans les faits, dans les dates, dans les citations. Je veux dire, mais j'ai pas voulu en faire trop non plus, parce que je me méfiais de la nostalgie. La nostalgie, ça fout tout en l'air. Quand j'étais petit, il y avait un groupe qui s'appelait les Haricots Rouges. Je veux dire, bon, qui est un roux de revival, je veux dire, bon,
de
Nouvelle-Orléans. Et donc, dès qu'on l'a présenté comme ça, c'était foutu. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le punk rock. Le punk rock, on était tous des fans, je veux dire, des groupes anglais des années 60, et je veux dire, de la Tamla Motown et tout ce qu'on peut imaginer. On le cachait bien pour avoir l'air d'être nouveau. Et on a réussi à faire croire à tout le monde que c'était nouveau, alors qu'en fait, pas du tout. Mais donc, la nostalgie, c'est comme le rire et l'amour, quoi. Ça va pas ensemble, quoi.
Alors, je te propose une gorgée de nostalgie. Alors, c'est un personnage dont tu parles comme ça au passage, donc au Golfe de Rouault. En fait, c'était la grande vedette du Golfe de Rouault, c'est Vigon.
Et de toutes
alors,
les boîtes du
il
coin,
est absolument passionnant parce que beaucoup. Lui, il chante le répertoire noir américain. Il est de couleur, mais en fait, c'est un Marocain.
Et il le fait très bien.
Alors, il le fait très bien, et en même temps, en écoutant, on se dit, mais oh, s'il avait chanté en français avec des textes un peu agressifs, il aurait pu être Khaled 30 ans avant.
Il aurait pu être quelque chose, c'est évident, ouais. Il a raté un coche, là, le Vicon en question, je pense aussi, oui. C'est Michel Jonas qui jouait avec lui.
Oui.
Même Chamfort a joué avec lui sous le nom d'Alain Legovic, quand il jouait pas avec Dutronc.
I'll never turn my back on you, Jackson Costa par Vigon.
I will never turn my back on you. No, no, no. I will never turn my back on you. No, you took away my pride, and I found out how you lied. I will never turn my back on you. I will never, ever let you die. No, no, no. I will never, ever let you die.
Merci Vigon, oui, ça, c'est comme une bouffée d'époque.
Ah, et on disait que chanteur.
Donc lui, il vit toujours au Maroc où
absolument.
Il a une boîte où et il chante voilà, en anglais chante et de temps en temps il vient chanter.
Exactement.
En France,
mais ce qui est drôle, c'est
qu'il soit
chanté en anglais, oui. Parce qu'à mon avis, il a raté un coche, parce que bon, quelle voix, présence et tout ça. Mais encore maintenant, c'est-à-dire, c'est le même problème qu'à l'époque des chaussettes noires, par exemple, les petits rooms qui démarrent, qui veulent à tout prix chanter en anglais, ce qui est complètement ridicule quand on est en France et tout ça. Et régulièrement, ils se plantent. Et encore maintenant, je veux dire, en 2000, je ne sais pas combien et tout ça, il y a la même problématique. Et je vois des groupes de 15 ans arriver qui disent « Ah bah oui, mais je chante en anglais. » Et alors je leur explique.
Et votre chanson
non.
s'appelle comment ? Elle s'appelle « I love you, my darling ».
À peu près ça, avec l'accent et tout ça. On retrouve le yaourt habituel, le même yaourt que les variations, que Little Love Story.
Ah, les variations.
Voilà.
Les variations.
Bon. Ah, je voulais, mais les autres. Voilà. Et donc, parce que mais c'est...
Comment la faire comprendre ?
Mais ils comprennent
qu'il n'y a pas d'avenir pour un groupe français.
Ils comprennent un groupe comme les Nast, que j'adorais, moi, que j'aimais ouais. beaucoup. Je les ai connus, ils avaient 14 ans et tout ça. Tu vois, ils avaient la force de ça. Et donc, ils ne voulaient pas le faire. Ils me disaient, mais mon père est anglais. Enfin, il avait toutes les bonnes excuses. Et un jour, il m'appelle, il dit, Patrick, viens au Gibus et tout. On joue ce soir et tout. Il y a une surprise. Il avait traduit tous ses textes en deux jours. Et maintenant, il chante en français. Ils comprennent, je veux dire, les bébés mm-hmm. brunes, dès le moment, ils ont compris.
Les Tetraed le avaient commencé en s'appelant Red Ted. Ouais. Et puis un jour, bon, voilà, ils ont. En même temps,
en plus,
bon, Tokyo Hotel.
Tant
Tokyo Hotel, ils chantent en anglais.
Oui,
mais les Suédois, les Hollandais.
Tout, oui, mais eux, c'est des gens qui parlent anglais naturellement. Mmh. Je veux dire, la France, je veux dire, on a quand même plus la classe que les Allemands. Non, je déconne. Mais je veux dire, nous, on a une tradition littéraire française. On est très mauvais en langue étrangère, comme chacun sait. Et je crois qu'en plus, on a écouté Marie Laforêt tout à l'heure, mais si elle avait fait une version en anglais de son truc, ça n'aurait eu aucun intérêt. C'est justement parce qu'elle a passé en français un grand classique américain en anglais que ça a donné quelque chose, quoi.
Alors tu m'as dit oh il y a une chanteuse que j'adore qui a fait une carrière trop courte, c'est Esther Galil.
Ah oui, même plus que courte, parce qu'elle a eu un hit fabuleux, mm-hmm. Jour se lève, qui était un chef-d'œuvre absolu.
Oui.
Et mon roman d'avant était presque dédié presque dédié à cette chanson, quoi. C'était ça traversait voilà et tout, quoi. Et elle a fait ce morceau fabuleux genre gospel, dans le genre gospel du début des années 70. Et Elle a disparu, elle a réussi à faire un second 45 tours, je veux dire une adaptation de Delta Lady de Joe Cocker, si ma mémoire ne me trahit pas. Bon. Et après, elle est partie dans un kibbutz et voilà, elle donne des cours de basse dans un kibbutz. Là, les nouvelles que j'ai ce que je sais sur Esther Galil. Voilà.
Esther Galil, la compilation Les années pas de def et la chanson s'appelle Le jour se lève, Tremblez.
Bientôt 5 heures, le matin va venir. Vous avez tous le cœur à aimer ou dormir. Mais moi je reste seul. Le jour se lève sur ma peine. Pas d'importance, car c'est pour toi que je danse. Il est bientôt 5 heures, le soleil va briller sur la mer et les fleurs et sur l'éternité. Moi je reste seul. Le jour se lève sur ma peine. Alors le monde entier fait l'amour. Mais ça n'a pas d'importance, car c'est pour toi je danse. Il est bientôt 5 heures, le matin va venir. Il est bientôt 5 heures, vous allez tous partir. Mais moi je reste seul.
jour se lève sur ma peine, alors le monde entier fait l'amour. Le jour se lève sur ma peine, alors le monde entier
Patrick Eudelin, permettez-moi une citation de votre roman Rue des Martyrs. C'est dans les chansons à trois sous que vit la vérité.
Bah oui, c'est bien pour ça qu'on les aime. Non, mais bien sûr. Quoi. Et là, à un moment.
C'est-à-dire que vous n'aimez pas, vous êtes comme tous les intellectuels, vous n'aimez pas les chansons intelligentes, vous aimez la chanson quand elle est bien bête.
Probablement, oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Genre, là, j'ai la vision à la beauté du diable de José Salci, qui effectivement me réjouit et que j'adore cette chanson et tout. Et j'écoute ça plus souvent que Monique Morelli, ou pour qui j'ai un respect, ou Marianne Nosswald, ou je ne sais pas qui.
Vous avez pris un grand soin d'éliminer tous les Ferré, tous les Brassens.
J'ai jamais aimé Brassens. Ferré, oui. Y a eu des... Mais même dans Brel, ce que j'aime, c'est les chansons, les mélodrames. Quoi. Mmh. Je veux dire, moi, j'aime quand c'est des mélodrames, j'aime quand ça monte, quand c'est lyrique.
En même temps, vous voyez que ça perdure, il n'y a pas à dire, ou sans parler des chansons de Vian, alors que justement toutes ces chansons-là, c'est 2 45 tours ou un, et puis ça valse.
Oui, oui, non, bien sûr. Mais c'est drôle, par exemple, j'ai un rapport ambivalent avec la rive gauche, par exemple, ce qu'on appelle la chanson rive gauche. Je redécouvre des choses maintenant, je vais dire, bon, par exemple, Catherine Sauvage, que je détestais quand j'étais petit, je sais pas, elle me faisait peur, cette dame-là, quoi.
L'ego et mon...
Voilà, elle me faisait peur.
Une des premières à chanter le grand Gainsbourg.
Oui, mais je l'ai su après, plus tard, mm-hmm. Et comme j'ai entendu quand elle reprend Cœur de Vaille et tout ça, c'est splendide et tout ça, mais j'avais la rive gauche, j'ai longtemps eu un rapport, un truc de rocker, quoi, qui se méfie de ce côté-là et tout, quoi, du côté chanson à télo, effectivement. Je me rappelle avoir tourné avec Mama Béa en pleine époque punk, oui. La fameuse Mama Béa et tout ça.
Que j'aime beaucoup.
je crois savoir et tout. Et c'était drôle, parce que c'était vraiment deux mondes, on s'est très mal entendu.
Bah, vous étiez un Parisien et elle, c'était certainement une non-parisienne.
Oui. Peut-être.
Mais peut-être. Il y a un côté très urbain, votre chanson est une chanson extrêmement urbaine.
Ben, je suis parisien, moi, ça c'est sûr. Je suis vraiment quelqu'un de
mais
la ville.
Mais vous êtes parisien, parisianiste, excusez-moi du terme.
Je ne me rends pas compte. Non, mais c'est
les voyous de Marseille ne vous disent rien, par exemple, alors qu'ils sont charmants.
Non, d'abord, il fait trop chaud dans leur pays, donc j'ai du mal. Moi, c'est un peu comme Huysmans, ça disait quelque chose là-dessus. Il ne descendait pas en dessous de la Loire, Huysmans, il avait trop chaud.
Et les rockers de Calais. Ça vous dit rien du tout.
Ah, les bourgeois de Calais, quel grand groupe, pardon.
Si, bon.
qui ont fait, d'ailleurs, je pourrais en parler longtemps des rockers de Calais. On va s'abstenir, d'ailleurs, ça sera un peu long.
Alors, on va un peu revenir vers un personnage qui est cité plusieurs fois dans le livre, qui est le plus romanesque, peut-être, des chanteurs de cette époque. C'est Alain Camp, ouais. Qui a fait quelques disques, qui chantait à l'Alcazar, qui était...
Même au roman, pour dire la vérité, au tout début, c'est-à-dire quand j'ai commencé à penser à ce roman, le personnage devait être plus proche d'Alain en Corse. Mais j'y ai renoncé parce que je n'avais pas envie de faire une autobiographie, je n'avais pas envie de coller au réel comme ça, je voulais être libre, pouvoir faire un roman. Donc, c'est voilà. Mais Alain, bon, et puis en plus, il se trouve que je l'ai bien connu forcément parce qu'il a fait un groupe punk mm-hmm. en même temps que moi, parce que j'ai passé l'année 77 chez lui, rue Custine, je vais dire. En orgie, oui. Ben non, mais je le raconte dans le livre, c'est-à-dire, parce que ça, c'est une des choses presque biographiques.
Mais c'est, la petite chose qu'on va retrouver dans le roman, c'est le personnage qui disparaît
exactement,
d'un jour à l'autre.
Et il a disparu d'un
jour à l'autre. Sauf que le vôtre revient, ouais. 20 ans plus tard.
Voilà, appelé par Internet, puis parce que j'avais envie de parler d'aujourd'hui, parce que j'avais envie de mettre les choses en perspective, en fait, voilà, et puis de parler aussi, je veux dire, de ce que c'est, je veux dire, de revenir aujourd'hui avec tout ce passé, cette légende, et d'être appelé par Internet, qui fait des MySpace sur vous, des YouTube, des machins, qui n'en parle pas forcément bien, alors que lui, mon héros, il se croyait tranquille en Argentine, là-bas, loin, et tout ça, et que c'était fini, c'était le passé. Il avait déjà assez du mal à vivre avec ce passé, à l'oublier. Et on lui remettait sur la gueule.
Il s'aperçoit que sur Internet, voilà, on est en train de construire un personnage
qui ne lui plaît
autour
pas
de lui qui forcément ne lui
plaît
pas.
En fait, ça l'appelle, quelque part, ça l'appelle. Il a envie de revenir. Mais je crois qu'il avait de toute façon envie de revenir parce qu'on ne peut pas mettre une croix sur les fantômes. Ça n'existe pas. On ne peut pas changer de vie. On peut pas... Quand on a connu ça, je veux dire, quand on a connu la scène, quand on a connu ces choses-là, je pense qu'à vie, on est chanteur, à vie, on est... Voilà quoi.
Ou à mort. Pas que...
Ou alors on est Elvis Presley, on devient pompiste, puisqu'il paraît qu'il n'est pas mort et qu'il est pompiste, hein, c'est bien connu.
Ou à mort, comme Alain Kahn. Je propose Infernale, Femme Fatale. Là, c'est la période punk, donc...
Pré-punk même, juste avant. C'est-à-dire, c'est plus New York Dolls et compagnie, quoi. Voilà, quoi. Dire que c'est son meilleur, c'est ce qu'il a fait de mieux.
Yeah.
Il est charmant, ce jeune Alain Caen. Patrick Heudlin, c'est vraiment une matière romanesque exceptionnelle. Alors, il y a aussi des jolis personnages. Il y a le personnage de Gudule, qui est la très belle fille. Cette chose très étrange et ce mélange d'arrivisme et d'autodestruction.
Mais parce que j'ai rencontré un genre comme ça, elle a été très inspirée par une autre personne, par Tina Aumont, en fait. Voilà, il y a beaucoup, c'est pour ça que le roman lui est dédié avec Alain, le roman est dédié à Alain Caen et Tina Aumont. J'adorais Tina.
Quel dommage qu'elle n'ait pas chanté, elle avait une voix admirable.
Tout ce qu'il faut et tout. Et elle avait ce mélange de trucs, je veux être actrice, tout ça et tout. Et je veux dire, de côté autodestruction, Zouzou avait ça aussi, qui a fait l'actrice pour Romère et tout ça. Donc, et Gudule, je veux dire que c'est un peu un mélange. Bon, donc l'héroïne féminine qui s'appelle Gudule, en hommage à Boris Vian, bien sûr, et tout ça. Je veux dire, bon, c'est un peu un mélange ou de comète ou de... Voilà, d'actrice Catherine Jordan aussi, qui a été une très belle actrice des années 60 en France, qui a tourné pour Rob Riley, une fille dont j'étais très amoureux quand j'avais 15 ans, qui s'appelait Muriel Catala, qui a tourné dans un film, je veux dire, je crois, avec Nina Companese et tout ça, et qui était... J'étais fou d'elle et tout ça. Et après, oui, donc c'est des... mélange des filles comme ça et tout. Il y a effectivement les deux côtés, quoi.
Le couple pivot, c'est un couple d'hommes, mais des amis, hein, purs et durs. Donc avec Jérôme, le chanteur, puis qui renonce et puis qui revient. Et puis son ami Chouraki, qui est le juif pied noir qui veut absolument plus entendre parler de ce folklore et qui décide d'être un Français comme les autres, un peu plus hanté par l'Amérique, peut-être...
J'avais envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui est très important, je crois, pour le rock, la pop française, la chanson française, cette histoire de juifs pieds noirs, parce que pour un truc de génération, tout simplement, quand ils sont revenus d'Algérie, tout ça et tout, c'était en plein l'explosion du rock en France. Et mon héros, Chouraki, je voulais vraiment parler de ça parce que, par exemple, le sentiment juif chez les juifs, religieux, tout ça et tout, est un peu revenu dans les années 80. Mm-hmm. Mais j'en ai aucun souvenir dans les années 70. Mes amis juifs, dans les années 60-70, je veux dire, il s'en fichait complètement. Donc, lui, dans les années 80, sa famille, mon Chouraki, le pousse à se rebrancher là-dedans, à se resserrer autour de cette identité et tout ça. Lui, il s'en fout et tout ça. Et puis, c'est un merveilleux ami. Moi, c'est l'ami. J'aurais aimé avoir un Chouraki comme ami, quoi. En fait, je veux dire, je crois que j'ai écrit ce personnage aussi pour parler de l'ami depuis toujours que j'ai jamais eu, quoi. Parce que Chouraki, c'est vraiment l'ami fidèle pour Jérôme. C'est-à-dire, quand Jérôme est pas là, il continue à payer sa chambre de bonne et tout, au cas où.
Fidèle, Jérôme, c'est celui qui se fait piquer ses copines par l'autre parce que l'autre est un tombeur.
Qui lui offre quasiment, il est amoureux de Gudule en secret. Je veux dire, même s'il a même jamais essayé, parce que je veux dire, bon, voilà, c'était pour Jérôme, quoi. Je veux dire, bon. Et il y a ce côté aussi, c'est un truc que j'ai beaucoup vu, le rapport entre le chanteur de rock et les gens qui l'entourent et tout ça, quoi. Je veux dire, bon, le copain et tout qui laisse, parce que c'est le morceau du chef, on disait ça, ou pour les rois, ou le morceau du roi, je sais pas quoi. Mm-hmm. Donc, la plus belle fille, c'est pour le chanteur, mais si on en est amoureux, on laisse tomber, c'est lui le chanteur, quoi. Donc, voilà. Et donc, il fait partie aussi un peu de cette tradition-là, Chouraki. Donc Gudule, c'était pour Jérôme, c'était évident. Voilà, c'était aussi simple que ça, quoi. Même si lui, il en était amoureux fou, en vrai, quoi.
Bon, que vous décriviez bien des personnages que vous ayez connus, ça tombe sous le sens, mais vous décrivez aussi très bien la jeune femme d'aujourd'hui, celle qui va au baron, celle qui veut interroger le chanteur parce qu'elle fait un mémoire sur la présence des Noirs et des Maghrébins dans le mouvement Yéyé, ce qui est une très bonne idée, parce qu'effectivement, quand on regarde les photos de la nation, on s'aperçoit qu'il y a des Nord-Africains, comme on disait à l'époque, partout, et qu'ils ont vraiment fait partie de ce mouvement et que, évidemment, on les a oubliés. Et donc, il est très joli, ce personnage de Chloé.
Ouais, mais c'est un mélange, parce que bon, je continue à vivre, oui. Je ne suis pas dans un sarcophage et tout ça, donc je vais au Baron, à l'Hôtel Amour, et tout ça, je fais de la promo pour mes bouquins, la preuve, et tout, et donc je rencontre des gens, bien sûr, quoi, et puis je veux dire, on a toujours un rapport curieux aux gens qui ont 20 ans aujourd'hui, je veux dire, quand on les a plus et de loin, bien évidemment, et tout ça. Donc, les femmes de 20 ans, je veux dire, les groupes de rock, de gens qui ont 20 ans et tout ça, bien sûr que ça m'intéresse et que je les observe et tout ça. Et puis, peut-être avec un pincement au cœur aussi, forcément, parce que ça, je parle de ça aussi. Jérôme, qui est plus vieux que moi, donc qui a 5 ou 6 ans de plus que moi dans le roman, puisque lui, il a vraiment connu le début des années 60 et tout ça, bon, le fameux drugstore et tout ça. Il est confronté à ça. Je vais dire, bon, avant, bon, c'était le beau gosse chanteur, donc il avait toutes les filles et tout ça. Maintenant, c'est plus compliqué, parce que je veux dire, bon, il a 60 ans, je veux dire, il a un peu raté sa carrière. Donc, quand on n'a pas l'argent et pas la notoriété, pour séduire dans le rock, hein, je veux dire, c'est pas facile, quoi, passer un certain âge. Donc j'avais envie de parler de ça aussi.
Quels étaient vos vieux de référence quand vous aviez 20 ans ?
Alors, les plus vieux que j'avais comme référence, c'était Gainsbourg et Warhol. Mais franchement, c'était les personnes, ou des vieux bluesmen, bien sûr, mais sinon des personnes d'un certain... parce qu'il n'y avait pas de grands écrivains de cette génération-là qui m'intéressaient, franchement. Bon, Selby, mais bon... Non, les plus vieux que je connaissais, que je pouvais faire référence, c'était Warhol et Gainsbourg. J'arrive pas à en trouver.
Et dans la littérature française, Genet, vous ne vous intéressez pas?
Si, il m'intéressait, bien sûr, je connaissais, mais j'étais plus... si, il y avait William Burroughs, j'aimais beaucoup, je lisais beaucoup, j'ai une période...
Vous auriez aimé lui parler, par contre.
Ah, je l'ai connu. Oui. Je peux me permettre de dire que c'est William Burroughs qui m'a dit qu'il fallait que je chante et qu'il m'avait offert un inédit des Garçons Sauvages, d'une dernière page écrite sur une nappe de restaurant. Ça sera la première chanson. C'était un colloque à Genève, à son honneur et l'honneur de Brian Jaisin. D'ailleurs, le livre existe. C'est le premier concert que j'ai jamais fait en tant que chanteur de rock et tout. C'était à l'instigation de William Burroughs et tout ça. Voilà, en 1974. Organisé par Christian Bourgois.
Mais rien dans votre propre culture.
Oui, j'adorais. Parce qu'en plus, quand j'avais 13-14 ans, il y avait plein de groupes de rock qui sauf Machine, la Machine Molle, tout ça. Mm-hmm. Donc je savais que c'était des livres de William Burroughs. Alors au début, je les ai achetés quand j'avais 13-14 ans, traduits par Claude Pelieu, et je suis tombé sur les cut-up, le ticket qui explose, tout ça, la Machine Molle. Je comprenais rien. Je cherchais à comprendre pourquoi c'était si génial. C'est comme Coltrane, comme John Coltrane, on me disait c'est génial. Il faut que je comprenne. Et après, j'ai lu Junkie, j'ai lu tout ça, j'ai trouvé, c'est magnifique, j'ai compris, quoi, bien sûr. Mais voilà, quoi. Donc oui, le plus vieux, c'était probablement William Burroughs. Voilà, ouais. Le héros de référence.
Bon, ben voilà, j'ai reçu un critique d'une musique que je n'écoute pas forcément tout le temps. Mais c'est toujours intéressant de voir comment les autres parlent des musiques qu'on n'aime pas forcément. Je pense que toi, ça doit être un petit peu la même chose.
Bah, la curiosité, quand même, c'est une sorte de qualité, j'espère.
Comment tu vois ce métier de critique, un métier pour moi, très dérisoire?
C'est complètement dérisoire et ça n'a jamais été un métier. C'est-à-dire que ça a été drôle quand j'ai commencé. Et je veux dire, parce qu'il y avait des gens de talent comme Yves Adrien, tout ça et tout. Et donc, pendant les 2 ou 3 premières années, je l'ai fait volontiers et tout ça. Maintenant, je veux dire, je le fais avec facilité, mais franchement, je m'en fous. C'est-à-dire, ce qui compte pour moi, c'est les romans. Je veux dire, bon, éventuellement, les chansons que je peux écrire pour des gens. Je veux dire, bon, et je veux dire, c'est une activité qui me prend au mieux. Je veux dire, une matinée par mois où j'envoie. Et puis d'ailleurs, je fais plus de critiques depuis des années et des années. J'envoie de temps en temps un conte ou un truc comme ça, un peu décalé à rock and folk et tout ça, qui m'intéresse. Mais je veux dire, je suis curieux, j'aime bien savoir ce qui se passe, mais ça n'a rien, parce que ça m'intéresse d'être toujours vivant, on va dire, mais je vais assez peu au concert, je choisis vraiment...
Les jeunes talents, tu vas essayer de débusquer les jeunes talents?
Non, j'aurais autre chose à foutre que débusquer les jeunes talents. Franchement, je me tiens au courant de ce qui se passe, mais parce que ça m'intéresse, ça m'interpelle, on appelle ça qu'on veut, mais je ne suis pas tourneur, hein, je veux dire, de maison de disques, et de toute façon, comme je ne fais pas de critique de disques, ça ne m'intéresse pas, et si je fais... un grand papier, ça va être un truc synthétique ou une rencontre avec quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je vais dire, bon, genre, je vais raconter Manu avec Christophe, par exemple, puisque, bon, il était dans l'air, ce garçon, comme ça, mais je vais pas, ou je vais raconter un truc. De toute façon, tout ce que j'écris maintenant dans les journaux, je passe, c'est des choses à la première personne, ou en gros, je raconte ma vie. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle la critique. Et ça, depuis très, très, très longtemps. En plus, à l'époque du groupe, quand j'ai fait le groupe, j'avais arrêté, en fait, d'écrire parce que c'était difficile en France, c'était mal vu, je le savais, il fallait que je fasse un choix. Donc j'ai bien compris la règle du jeu, quoi. Bon, non, ça n'a jamais été franchement un truc un but en... je le fais bien, c'est-à-dire quand je fais quelque chose j'essaie de bien le faire, même si c'est alimentaire, quoi, mais ça n'a jamais été un but en soi, quoi.
Nous avons une admiration commune dans le journalisme, Jean Lorrain.
Bien sûr, oui, ça, c'est
et justement c'est ce qu'il faisait beaucoup, de mélanger, il racontait ses propres histoires.
C'est une influence directe et assumée, je veux dire, absolument, bien sûr, voilà, ça, et pour moi justement c'est pas du journalisme, c'est de la littérature, c'est de l'écriture, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, lui il parlait de son époque, il parlait du monde dans lequel il vivait et tout, je veux dire, c'est, ou d'Yvette Guilbert, je veux dire, de chanteuse, tout comme ça et tout, bon... pour moi, c'est exactement ça que j'essaye de faire, quoi. Je veux dire, enfin, c'est oui, bien sûr.
Et il s'adonnait à toutes sortes d'excès.
Oui, ça,
on connaît sa célèbre,
oui, parce que je crois,
la célèbre recette, je crois, des oranges pelées à l'éther.
Des fraises avec de la crème fraîche dedans pour cacher le goût et tout ça. Absolument. Mais c'est comme, il y a autre chose. Hein. Qui a écrit le meilleur critique de musique classique? C'est Claude Debussy. Je viens souvent de Monsieur Croche, parce qu'il était dedans, il le vivait. Et je crois que pour bien parler de la musique, il faut la vivre. C'est-à-dire et en faire, quoi. Je veux dire, et que ce soit son métier. Mm-hmm. Et là, éventuellement, on peut en parler. Comme en littérature, ça paraît absolument normal à tout le monde que les meilleurs critiques et tout ça, ce soit les écrivains. Enfin, je veux dire, c'est l'évidence pour tout le monde. Eh bien, pour moi, c'est pareil pour la musique. Ça ne peut pas être un métier comme ça, justement. C'est pour ça que le mot critique me gêne, parce que... Genre, en tout cas, dans le rock et tout ça, je pense qu'il faut avoir la pratique de la chose pour pouvoir en parler et la comprendre de l'intérieur, je pense.
Patrick Oedlin, j'ai reçu le romancier de Rue des Martyrs, un roman qui est chez Grasset. J'ai reçu le critique, même si il n'aime pas ce mot-là. Je ne sais pas quel... il faudrait dire les rôdis de la plume.
On va dire ça.
Quelque chose comme ça. Je vous commande un prochain roman qui serait La vie d'un rôdi, parce que j'ai toujours été fasciné par les rôdis. Quand j'ai cherché à avoir des passes pour aller dans les coulisses, en fait, c'était pour aller reluquer les rôdis, toujours, et pas du tout les vedettes. Mais il y a aussi un Patrick Oedlin, chanteur, et c'est avec lui que nous allons nous quitter. Une chanson particulièrement gaie,
et optimiste,
entraînante, optimiste, qui s'appelle « Je n'en ai plus pour très longtemps ».
Je n'en ai plus pour très longtemps. Au loin, j'entends les loups hurler doucement. Je n'en ai plus pour très longtemps. Vampire, je n'ai plus toutes mes dents. Je m'en vais seul, oh si lentement. Mon monde est mort, moi qui l'aimais tant. Il me faudrait un chien, un tout petit animal, quelqu'un qui m'aimerait encore jusqu'au dernier bal, qui me regarderait même quand ça irait mal, quand les dés seront jetés, quand ça ira mal. Et tous ces mots trop grands et la faim qui tenaille et tous ces rêves d'enfant, tout ça ne veut plus rien dire. Aux premiers cheveux blancs, m'en vais seul, aussi lentement. Mon monde est mort, moi qui l'aime tant.
Le roman de Patrick Heudlin, Rue des Martyrs, est disponible chez Grasset. C'était Chanson Boom, Meryl Moneghetti, Philippe Thibault, Patrick Molinier, Hélène Azéra. Bonne nuit à l'écoute de France Culture.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juillet 2009.